à la suite de cette utilisation. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose actuellement avec la crise ? C'est ce que dit Concialdi, oui, c'est-à-dire oui. que la crise a bon dos. Il faut tous qu'on se serre la ceinture comme si on était tous responsables de cette crise, y compris les chômeurs, y compris tous ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Il faut accepter, bien évidemment, les plans d'austérité et puis, voilà, de belles aubaines pour les privatisations. Je pense qu'au nom de la crise, on fait, il y a pas mal d'abus.
Oui, c'est vrai dans deux domaines qui sont particulièrement frappants. Le premier, c'est la protection sociale à l'échelle européenne. Quand vous regardez la stratégie de la Commission depuis 20 ans, la Commission se bat pour réduire la protection sociale, pour affaiblir les systèmes publics et pour accentuer les systèmes privés. Et là, avec la crise, dans tous les pays, on impose des réformes épouvantables. La Commission, dans tous les pays, essaye d'imposer la retraite à 65-67 ans. Et la retraite à 65-67 ans, c'est une baisse extrêmement importante du niveau des retraites. Ça veut dire que les gens de 60 à 65 ans, ils se retrouvent dans des situations absolument horribles et ça passe à cause de la crise. Et le second point qui est particulièrement frappant, depuis 20 ans, la Commission, elle essaye de s'attribuer le maximum de pouvoir et de priver les gouvernements démocratiques élus de la possibilité de faire des politiques autonomes. Et là, on a, depuis 2 ans, un déferlement de propositions. Le premier semestre européen, le pacte de compétitivité, et puis là, ce qui a été proposé, la réforme budgétaire proposée par Sarkozy ou Merkel, où l'idée, c'est toujours la même, imposer à tous les pays des politiques budgétaires automatiques, imposer la règle d'or dans les constitutions et arriver à un système dans lequel les pays seront obligés, année après année, de faire des politiques restrictives.
Donc, pour compléter ce que disait Henri, ça veut dire en clair, concrètement, sans décodeur, que plus on va mal, plus on va être puni. Et plus on va être puni, plus on va payer d'amende, plus on va aller mal. C'est un cercle vicieux
oui,
complet.
C'est ça, l'austérité.
Et,
oui.
et c'est, oui. c'est les réformes qui ont été prises là, au mois de mars au sommet européen du 23-24 mars et celles du 8 et 9 décembre, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi que les budgets nationaux vont être sous contrôle de la Commission. On va avoir le semestre européen, ce dont parlait Henri. Ça veut dire quand même qu'au mois de mars, le Conseil se réunit, donc les chefs d'État et de gouvernement, qui va définir des grandes orientations. Ensuite, nos parlements vont voter un budget jusqu'au mois de mai, de mars à mai. Et en juillet, le Conseil et la Commission vont trancher, vont nous dire « Ah non, non, dans votre budget, là, non, il y a des choses. Ah, vous voulez, Monsieur Hollande, vous voulez recruter 60 000 profs ? Non, ça ne va pas le faire, ce n'est pas possible. » Donc, vous vous rendez compte, ça veut dire quand même que les budgets ne seront plus totalement sous contrôle des parlements. Ce que je trouve assez choquant. Parce qu'à partir du moment où on a décidé de faire une union monétaire, on a transféré la politique monétaire et la politique de change au niveau européen, d'accord, mais on avait encore le contrôle sur les budgets. C'est le dernier levier qui restait aux États. Maintenant, avec ces réformes, bah, ils en tirent parti justement pour confisquer toutes les petites onces de démocratie. Et le budget, c'est une once de démocratie importante.
Oui. Comment ça se passe entre vous, les atterrés, là, quand vous parlez de l'euro ? Vous écharpez
Non, mais c'est très intéressant. Justement, contrairement au débat qu'on peut avoir avec les économistes néolibéraux, là, on voit qu'il y a des propositions constructives. On est assez différents entre nous. On a souvent des différences, mais on a des débats très constructifs qui débouchent sur des propositions, des synthèses. C'est très stimulant intellectuellement, contrairement à d'autres débats.
De toute façon, la question de l'euro...
On aimerait bien que ce soit stimulant politiquement.
Oui, mais ça l'est. Et je pense que
notre ouvrage... Ce ne soit pas des plaisirs d'un télo qui s'éclate.
Notre ouvrage le montre d'ailleurs.
Dans l'ouvrage, vous verrez, il y a plusieurs propositions sur l'Europe. Mais le problème,
le problème de
l'euro et de la zone euro, d'une certaine manière, il n'est plus entre nos mains. Ça veut dire que, compte tenu de la pression qu'exercent les marchés financiers sur la dette et compte tenu de la manière dont l'Europe assume cette pression et la relaye sur les États nationaux, et compte tenu. En plus de la manière dont les États nationaux, à commencer par le nôtre, se fait le porte-parole de cette pression, etc. Bon, c'est plus entre nos mains. Ça veut dire que si on continue comme ça, c'est le modèle grec, ça explose. La question, elle est...
Qui se généralise à toute l'Europe.
Moi, mon sentiment, et je crois que c'est largement partagé, hein, si ça continue comme ça, l'Europe explose. Ce n'est pas des économistes atterrés qui vont faire exploser l'Europe, c'est les libéraux qui vont faire exploser l'Europe.
Le problème, c'est que les classes dirigeantes et les marchés financiers n'ont pas actuellement de stratégie de sortie de la crise. Et on voit toutes les semaines la catastrophe totale. On voit les marchés financiers spéculent contre les États, ça fragilise.